Très bien, bonsoir mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'être venus ce soir pour le premier café scientifique de l'année 2013 consacré à la gestion des déchets, un nouveau business. Juste deux mots d'introduction en ce qui me concerne, vu que ma bobine doit être nouvelle pour la plupart d'entre vous, et que je ne suis pas un spécialiste ni de la modération des cafés scientifiques, ni de la gestion des déchets, c'est un peu paradoxal. Mon nom est Jean-Marie Gretter, je suis professeur d'économie internationale ici à l'Université de Neuchâtel, et représentant de la faculté de sciences économiques dans la commission qui organise ces cafés scientifiques. Donc, si vous me trouvez parmi vous ce soir, c'est à ce titre, et puis suite à une discussion qu'on a eue avec nos collègues, avec Igor, il y a quelques mois de cela, où on s'est dit, mais finalement, compte tenu de tes intérêts, on parlait de ma petite personne, qu'est-ce que tu peux nous proposer qui soit intéressant pour un café scientifique ? Et je veux dire, ma spécialisation, c'est plutôt de nouveau commerce international, donc exportation, importation et environnement. Donc je me suis dit, d'accord, on va essayer de trouver quelque chose de plus local. Aussi plus en phase avec les cours que je donne dans le master de politique économique que nous avons ici à l'Université de Neuchâtel. Et il s'est avéré que l'année précédente, j'avais été remplacé par une spécialiste de gestion des déchets, qui est Sylvie Lupton, et qui est bien plus à même que moi pour présenter ce dossier. On s'est dit, d'accord, gestion des déchets, ça c'est très bien, c'est des préoccupations qui sont plus directement du ressort de la politique locale. En plus, on vient d'introduire la taxe au sac dans le canton de Neuchâtel, elle va être introduite dans le canton de Vaud, on pourrait organiser un café scientifique sur ce sujet. On s'est dit, non, mais l'économie des déchets, c'est plus vaste tout de même que la taxe au sac. Donc, et compte tenu de l'expérience de Mme Lupton, on s'est dit, tiens, il faudrait organiser peut-être une partie du café scientifique sur la taxe au sac, donc ça va venir dès l'instant où je cède la parole aux intervenants de ce soir. Et puis une autre partie sur les problèmes plus généraux de gestion des déchets dans une économie telle que la nôtre, une économie riche dans laquelle interviennent tout à la fois les entreprises privées et les collectivités publiques, et où la gestion des déchets devient un des domaines d'intervention de l'État, de plus en plus systématique, de plus en plus complexe aussi. D'où l'idée de compléter la présence de Mme Lupton par des responsables locaux, que ce soit sur le plan politique. Pascal Sandeau nous a fait la gentillesse d'accepter notre invitation comme président de la ville de Neuchâtel, du conseil communal. Emmanuel Maître, responsable de Valdec, donc, qui va se présenter tout de suite, et une personne qui se trouve à l'interface, justement, entre collectivités publiques, entreprises privées, et qui est représentant d'un cabinet conseil ou d'une société de conseil en écologie industrielle et en environnement. Guillaume Massard s'est déplacé depuis Genève pour être parmi nous ce soir. D'où l'idée, de nouveau, de séparer le café scientifique en deux parties, taxe au sac au départ, et puis problème plus généraux de gestion de ces déchets dans une économie mixte, avec une dernière partie consacrée aux perspectives d'avenir. Donc, je vais vous demander un peu de patience par rapport aux émissions, aux précédentes séances de café scientifique, à savoir laisser le temps que nos intervenants présentent la toile de fond générale au sujet de la gestion des déchets. Donc la taxe au sac, on sait que c'est d'une actualité brûlante, ça va venir dans une dizaine, quinzaine de minutes, mais je me permets d'abord de passer la parole à nos quatre intervenants qui vont profiter de se présenter en répondant à des questions plus générales. Et je vais commencer par Sylvie Lupton, de nouveau, qui est donc l'auteur de ce manuel d'économie des déchets, une approche institutionnaliste qui fera date, et qui est déjà intervenue comme spécialiste de ces questions sur la RTS la semaine dernière. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous l'ont déjà entendu. Ce que je vais demander à Sylvie au départ, c'est de nouveau de répondre à des questions plus générales que la taxe au sac. Je lui ai préparé trois questions. Essentiellement, depuis quand est-on passé à une notion de gestion des déchets plutôt que d'incinération des ordures pure et simple? Qui sont les principaux producteurs de déchets? Et quelles sont les principales filières de gestion de ces déchets? Merci à Sylvie de répondre à cela. Et de nouveau, on va peut-être attendre quelques minutes pour les questions sur la taxe au sac.
Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Je suis ravie d'être là à Neuchâtel en ce mois de janvier. Donc, quand est-ce que ça commence la gestion des déchets ? Quand est-ce qu'on se préoccupe vraiment sérieusement de gérer les déchets ? Ça commence réellement dans les années 1970 en Suisse. Mais si on regarde plutôt dans une perspective européenne, on voit que l'Autriche est précurseur parce que dès 1945, ils mettent en place une taxe au sac. Donc ça, c'est assez une taxe incitative. Ça, c'est assez remarquable. L'Allemagne et l'Autriche sont vraiment les pays précurseurs dans le monde au niveau des déchets. Mais la Suisse est quand même bien placée puisque la première taxe au sac a lieu en 1975 à Saint-Gall. Bon. Revenons sur la gestion des déchets. Ce n'est pas seulement éliminer les déchets, à savoir les incinérer ou les mettre en décharge, mais c'est aussi savoir les valoriser, à savoir utiliser ces déchets pour créer de la valeur, pour les recycler. Et le mieux, bien sûr, ce serait de les éviter, parce que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Mais le problème, c'est de trouver une solution et de savoir hiérarchiser les priorités. En Suisse, en fait, on va parler un petit peu de la gestion des déchets. Ça a commencé en Suisse assez tôt. L'Office fédéral qui avait en charge la protection de l'environnement a émergé en 1971, comme d'autres pays européens. Et une des raisons que ça a émergé à ce moment-là, c'est la prise de conscience environnementale à ce moment-là. Dans les années 70, il y a eu, avec le rapport Meadows, une prise de conscience des limites de la croissance, le fait qu'on allait épuiser toutes les ressources et qu'il fallait aussi recycler, valoriser tout ce qu'on pouvait valoriser. Il y a une prise de conscience environnementale en Suisse aussi, parce qu'en Suisse, je pense que le civisme est très important, contrairement à d'autres pays francophones comme la France, où le civisme est beaucoup plus réduit. Et je pense que ça, civisme et environnementalisme vont de pair. Bon, on peut contester, je suis ouverte à débat, là, il n'y a aucun souci. Alors, les principaux produits... Je vais anticiper ta prochaine question, excuse-moi.
Principaux producteurs de déchets.
Hein. Oui, donc les principaux producteurs de déchets, tout dépend de la structure industrielle des pays. Si on regarde la Suisse, à votre avis, quels sont les déchets qui sont le plus produits en Suisse ? Je vous pose une question là. C'est une colle, oui.
Ça dépend un petit peu des critères en termes de poids de masse.
En termes de poids, de volume, c'est de poids. C'est combien ? Bon, sachant que la Suisse produit 19,4 millions de tonnes par an, à peu près. Quel est le tonnage le plus important en Suisse ? En fait, c'est les déchets de la construction, qui correspondent à 12 millions de tonnes de déchets en Suisse, ce qui est quand même énorme. En deuxième lieu, en fait, au deuxième niveau, il y a les déchets urbains. En fait, les déchets urbains, si vous regardez combien les ménages produisent de déchets par an, ils produisent 700 kilos de déchets par an, ce qui correspond, Jean-Marie, à...
22,4 millions de mètres cubes.
22,4 millions,
selon les calculs.
Voilà. Et ça correspondrait au niveau de la montagne, tu avais fait
J'ai fait un calcul back of the envelope, comme on dit en anglais, ça correspondrait à un quart de chasseral par année. Si le chasseral est un cône de base égal à sa hauteur, à peu près.
Et au troisième niveau, il y a les déchets spéciaux et les boues. Donc ça, c'est pour vous dire un peu l'ordre de grandeur. Mais ça va dépendre des pays. Par exemple, en France, vous avez une grande importance des déchets agricoles qui viennent de l'élevage intensif, avec les lisiers, qui posent un problème, notamment en Bretagne, parce qu'il y a des excédents de lisiers, comme en Belgique, et comme aussi aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, où il y a à peu près un port par habitant, donc c'est beaucoup. Donc voilà, ça c'est pour les principaux producteurs de déchets au niveau donc, de ta question.
Parfait, merci beaucoup Sylvie d'avoir été...
Il y avait une dernière question.
Bref, mais je crois que c'est parfait. Ouais. Pour introduire également nos autres intervenants du soir, ça aura l'occasion de revenir sur l'autre question. non, mais c'était couru d'avance. L'idée, de nouveau, c'est que on vit une période qui est tout de même de plus en plus marquée par la complexité de la gestion de ces déchets. On a changé de terminologie, de vocabulaire utilisé. On parle de valorisation de ceci. Et je cède la parole maintenant à Emmanuel Maître en lui demandant quels sont les principaux facteurs qui expliquent la création de son entreprise et qui sont ses clients et quelles sont les activités de valorisation principales qui sont effectuées à Waldeck.
Oui, bonsoir. Alors, Waldeck a été créé en 2008 par la fusion des sociétés Cridoresa et Sayod. Pour ceux qui viennent de la région, vous connaissez ces entreprises. Cridoresa, c'est l'usine incinération qui est à La Chaux-de-Fonds, Sayod, l'usine incinération qui est à Colombier. Donc on a fusionné en 2008. Mais ces deux entreprises, qui sont des sociétés anonymes d'ailleurs, de droit public, de droit privé, je veux dire, mais actionnariat public, ces deux entreprises ont été créées à la fin des années 60. Alors comme Madame Lupton l'a dit, il y a eu un éveil de la conscience écologique durant ces années, mais pas seulement ça. C'est que, tout simplement, en Suisse, on est très restreint au niveau des disponibilités en décharge. Et l'incinération permet de réduire le volume de déchets d'un facteur 5. Donc, pour une tonne de déchets, vous avez 200 kilos de ce qu'on appelle techniquement des mâche-fer. En fait, c'est des cendres. Simplement, ce n'est pas les cendres de votre cheminée de salon. Hein. Il y a un peu de tout dedans. Je vois qu'avec la taxe au sac, ça s'est drôlement amélioré, mais il y a encore un peu de tout dedans. Et ces cendres, 200 kilos sur une tonne, on doit les mettre dans une décharge spécialement aménagée. Donc, c'est avant tout une volonté de réduire les volumes. Donc, à l'époque, les collectivités de la région de Neuchâtel, la région de La Chaux-de-Fonds, ont décidé de créer ou de construire des usines d'incinération. Alors, les usines d'incinération, à l'époque, c'était avant tout pour traiter les déchets. Il n'y avait pas forcément, en tout cas pas immédiatement, dans beaucoup d'endroits, une pensée énergétique. Malgré le fait que dans les années 70, on sait qu'il y a la crise du pétrole, donc il y avait quand même des soucis énergétiques. Mais je dois dire que ces usines d'incinération de première génération, qui existaient ailleurs en Suisse depuis bien avant 1960, hein, étaient vraiment très peu tolérées. Pourquoi ? Parce que c'était des usines d'incinération qui polluaient. Mais dans les années 90, lorsqu'on a fait la deuxième génération d'usines d'incinération, cette fois, on a pensé à l'énergie et on a construit des chauffages à distance autour de ces usines. Et là, je dirais que ces usines étaient tolérées ou sont tolérées parce qu'elles amènent quelque chose. Et puis, vous aurez les usines d'incinération, on ne va plus les appeler usines d'incinération, on va les appeler les centres de valorisation thermique. C'est en fait, dans le futur, des centrales thermiques de production d'énergie qui utilisent les déchets comme carburant principal. Et ça va être plus que toléré, à mon avis. Ça va être accepté du fait de la plus-value amenée par ces centrales. Mais voilà, donc la raison de la création de Waldeck et de Cridor et de Sayod à l'époque.
Merci beaucoup, Monsieur Maître. Je passe la parole maintenant à Guillaume Massard pour nous expliquer également, quelles sont les raisons qui ont conduit à la création de votre entreprise, qui est plus récente que celle de M. Maître, et puis quelles sont ses activités principales en termes de valorisation.
Merci. Bonsoir à tous. Donc, Sophia, c'est un bureau de conseil essentiellement. Donc, nous ne traitons pas directement des déchets, nous n'avons pas d'installation de transformation. Par contre, nous conseillons des acteurs privés, des acteurs publics, sur des filières de valorisation, sur une manière de planifier aussi ces filières dans certains cas, afin qu'elles soient le plus efficaces possible. Alors l'idée derrière la création de notre entreprise, c'est un concept qui s'appelle l'écologie industrielle, qui a été porté depuis les années 90 par le professeur Søren Erkmann, qui est professeur à l'université de Lausanne, et qui prône en fait une réutilisation, une utilisation circulaire des ressources et des déchets. Et si on a parlé avant d'incinération, qui est quelque chose de tout à fait efficace quand on ne sait pas quoi faire de certains déchets mélangés de basse qualité, par contre, on a beaucoup d'autres déchets pour lesquels on peut développer des filières. Il y en a d'ailleurs beaucoup en Suisse, hein, on est très très au point sur ces questions. Et ce qui est intéressant là derrière, c'est que finalement la notion de déchet elle-même disparaît. quand on va voir dans la législation fédérale, le déchet est une chose meuble dont on se défait par intérêt public. Or, un déchet valorisable pour lequel il y a un marché, créateur d'emplois, possibilité de le réutiliser localement ou moins localement, parce qu'on exporte beaucoup de nos déchets, finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui reste comme déchet ? Donc voilà, ce sont ce genre d'activités-là que nous proposons, auxquelles nous réfléchissons avec différents cantons et la Confédération. Et pour répondre à la dernière question, donc les axes de valorisation, un cheval de bataille important qui est mentionné ici, c'est tout ce qui concerne la mutualisation et ce qu'on appelle également les symbioses industrielles. Donc c'est comment on fait en fait collaborer les entreprises entre elles, directement dans des zones industrielles, localement, pour qu'elles réutilisent les déchets de leurs voisins, pour qu'elles se mettent ensemble pour faire des contrats mutualisés, pour gérer leurs déchets ensemble, parce que ben, avec ça, on économise du transport, on économise un certain nombre d'activités et effectivement, du coup, de l'argent pour les entreprises, bien évidemment. Mais c'est aussi bénéfique souvent pour l'environnement. Donc voilà, pour ouvrir un petit peu le débat, peut-être s'il y a certains termes qui ne sont pas clairs complètement, on reviendra dessus.
Vous avez anticipé mon commentaire au sujet de la mutualisation. Je pense que ça ferait partie de la deuxième partie de notre café lorsqu'on parlera des déchets industriels à proprement parler. Mais je remercie beaucoup les trois intervenants précédents d'avoir respecté les contraintes temporelles et de s'être présentés très brièvement. Vous aurez le temps ensuite de revenir sur votre domaine de compétences particulières au gré des réponses aux questions. Last but not least, je cède la parole à Pascal Sandeau maintenant pour nous donner la vision du politique en lui demandant le même effort que les intervenants précédents, à savoir ne pas parler de taxe au sac tout de suite, mais nous parler de la position des pouvoirs publics face à cette problématique plus large de gestion des déchets.
Oui, je vous remercie tout d'abord. Merci d'avoir associé la ville de Neuchâtel à ce café scientifique, ce qui me permet de revenir à l'université. C'est un vrai plaisir. La position des pouvoirs publics, en fait, elle est déterminante dans la mesure où nous fixons les conditions cadres, puisqu'il y a l'élaboration d'une loi, d'un règlement d'exécution. Et puis ensuite, ça se traduit par des mesures très claires, je dirais, dans le terrain, pour chaque citoyen que vous êtes et que je suis également, pour ce qui concerne le ramassage des ordures ménagères. Donc, j'aimerais illustrer ce propos par une brève évolution de comment les choses se sont passées. Et encore une fois, je n'ai pas un regard académique de la chose, c'est vraiment un regard très, très, très pragmatique. Rappelez-vous peut-être, pour ceux qui habitent la ville de Neuchâtel, il y a 8-9 ans, on crée une déchetterie sur les hauts de la ville. Puis ensuite, on a créé des containers enterrés pour les ordures ménagères. On a créé des éco-points où on peut déposer à peu près tout ce qu'on veut, mais cette fois-ci en ville. Et ça, c'est une chaîne. C'est une chaîne qui est mise à disposition du citoyen. On a eu très tôt, en ville de Neuchâtel, parce qu'on a créé cette chaîne, une culture du tri qui est tout simplement incroyable, puisque avant l'introduction de la taxe au sac, on était à 49% de taux de tri. Et puis est arrivée la loi. Alors la loi, c'est une longue maturation. On n'a pas réinventé l'eau chaude, on n'est pas les premiers à avoir créé la taxe au sac chez nous. Et la loi nous a permis de travailler cette culture du tri qui repose sur la protection des ressources, parce que c'est pour ça qu'on trie finalement. Et j'aimerais vous donner juste quelques résultats, sans entrer trop dans le détail, pour vous dire l'efficacité de la chose. Et madame, tout à l'heure, je crois, a parlé du sens civique. Des citoyens, c'est indispensable, je dirais, pour que les choses se passent correctement. Et là, vraiment, je tire mon chapeau aux citoyens. Quelques brefs résultats. Après une année concrète, c'est entré en vigueur la loi le 1er janvier 2012, ben voilà, on est en 2013. Eh bien, pour les biodéchets, nous étions à 1000 tonnes de ramassage, nous sommes à 1900 tonnes. C'est quand même assez incroyable, 1000 à 1009. Et quand je vous parlais de conditions cadres, ce n'est pas seulement la loi. On a mis gratuitement à disposition des propriétaires ou des concierges d'immeubles des conteneurs pour récupérer les biodéchets. Deuxième petit chiffre, enfin petite façon de parler, les incinérables, donc on parle des ordures ménagères. Nous étions à 9000 tonnes l'année passée en ville de Neuchâtel. Nous sommes maintenant à 4200 tonnes. Tout ceci... Et ça, c'est un scoop. On a pu le calculer aujourd'hui et on le produira tout prochainement. Nous avons un taux de recyclage qui est passé de 49%, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, à 70%. Donc, vous voyez l'importance des condition cadre hein, que le politique est appelé à fixer. Mais j'aime bien associer aussi le citoyen, hein, parce que si le politique fait une loi, derrière, il y a toujours la possibilité, enfin, pour le Conseil général, le législatif, de combattre la loi. Et puis, évidemment, le citoyen peut lancer un référendum et tout faire capoter, par exemple. Hein. Donc, c'est vraiment un travail qui repose sur le sens des responsabilités et le sens civique des uns et des autres. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long pour cette première intervention.
Merci beaucoup, Monsieur Sandeau. En plus, vous avez anticipé sur l'ouverture de la partie à proprement parler taxe au sac de la soirée. De nouveau, gardons en tête pour la suite tous les problèmes plus généraux qui ont été évoqués, notamment l'importance du cadre institutionnel. Ce n'est pas un hasard, de nouveau, que le sous-titre du livre de Sylvie Lepton soit une approche institutionnaliste, parce que, comme vous l'avez très bien fait remarquer, Monsieur Sandeau, l'État donne les conditions cadres dans lesquelles vous et moi, les entreprises, les producteurs de déchets, vont interagir avec plus ou moins de bonheur en produisant plus ou moins de quarts de chasserelle par année, avec plus ou moins de toxicité. Et un des instruments dont l'État dispose pour modifier le comportement des ménages en particulier, c'est la taxe au sac qui apparemment a eu des résultats encore plus bénéfiques qu'escomptés sur le plan de Châtelois. Donc j'imagine que vous avez sans doute beaucoup de questions à poser sur la taxe au sac, non seulement à M. Sandeau, mais à nos autres intervenants ce soir. Et donc j'ouvre le débat à ce sujet. Qui veut poser la première question au sujet de la taxe au sac, peut-être plus spécifiquement à Neuchâtel ? Sinon, je me substituerai à vous. J'en ai... Monsieur ? Non ?
Il y a eu beaucoup de problèmes comme au départ avec des sacs qui n'étaient pas les bons sacs. Après, on n'a plus de nouvelles sur la progression, de l'amélioration de la courbe. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des sacs frauduleux ou est-ce que tout le monde respecte les sacs taxés ?
Je crois que M. Sandeau, si vous pouvez répondre à cette question.
Oui, volontiers. C'est clair que quand vous introduisez une loi, et là on parle vraiment d'une loi, hein, vous devez contrôler, surveiller, enfin intervenir, mais d'abord en expliquant, en faisant de la prévention, et c'est ce que nous avons fait, mais très vite nous avons été très sévères, parce que nous avons constaté que, soit parce que les gens n'avaient pas compris, peut-être parce que certains ne voulaient pas jouer le jeu, par manque de civisme, hein, je ne sais pas, ça ne triait peut-être pas, ou ça n'utilisait peut-être pas les bons sacs. Ce qui a des conséquences sur l'ensemble des citoyens, parce qu'il faut bien incinérer, et M. Maître à mes côtés en sait quelque chose, il m'envoie des factures, hein, et puis après, moi je dois vous envoyer mes factures. Alors si on joue pas le jeu, ça vous fait augmenter ce qu'on appelle la taxe de base. Donc au début, en ville de Neuchâtel, on a eu évidemment, je ne sais plus si c'était 10 ou 12%, je ne me rappelle plus, hors de grandeur. Et aujourd'hui, on est à moins de 2,5%. Donc ça se passe très bien. Encore une fois, chapeau, hein, j'attends, chapeau. Et les gens, je crois, ont compris que plus vous triez, moins vous devez acheter de sacs. Et mieux ce travail se fait, plus la taxe de base, qui est à, je crois, 114 francs, si mon souvenir est bon, va rester à ce niveau-là. Mais encore une fois, voilà, on en est au début. Cette taxe évoluera certainement quand on aura des calculs plus fins, quoi. Mais voilà la réponse. Donc, c'est fondamental de pouvoir, je dirais, jouer cette interactivité, encore une fois, pas pour sanctionner, mais véritablement pour faire comprendre le message et le bien fondé du tri.
Je crois que Sylvie veut apporter un complément.
Oui, je voulais, en complémentarité de ce que vient de dire justement M. Sandeau, je pense qu'aussi, du point de vue quantitatif, il y a de clairs résultats. Le taux de non-respect, si on va voir le tourisme des déchets en Suisse, de façon historique, il représente 1 à 2% des déchets. Donc c'est rien. C'est vraiment exemplaire. Par rapport à d'autres pays comme aux États-Unis, on compte des fois 34% de fraude, ce qui est énorme. Par contre, il ne faut pas oublier qu'il y a un temps d'adaptation. C'est un peu une résistance au changement. Et pour éviter la taxe, on peut avoir des problèmes qualitatifs parce que le tri n'est pas bien fait. Et c'est ce qu'on constate actuellement, c'est que des fois, les personnes veulent se débarrasser un peu trop rapidement des déchets. Ils vont en déchetterie et ils ne vont pas nécessairement bien trier les déchets comme il faudrait. Donc il y a encore des progrès à faire, mais c'est vrai que c'est un très bon début.
Je laisse M. Sandeau réagir à la réaction.
En fait, sur la qualité des déchets, il y a deux types d'installations de tri de déchets qui ont été mis en place dans les collectivités, dans le canton de Neuchâtel, mais ce n'est pas propre au canton de Neuchâtel. C'est ce qu'on appelle l'éco-point. C'est les quelques bennes de déchets principaux, les plus grands volumes, comme vous les avez dans différents quartiers, à quelques centaines de mètres, normalement, de votre habitation. C'est là qu'on trie le papier, en général, le verre. On amène aussi des déchets incinérables, etc. Et là, il n'y a pas de surveillance. Donc, c'est là qu'on a la moins bonne qualité. Alors, si vous allez voir, notamment dans un conteneur à papier, vous pourrez y trouver des choses qui ne devraient pas y être. Et ça, clairement, ça péjore le revenu que l'on a au niveau des matières. Ça péjore tellement, je peux vous donner un exemple, on a reçu un avis de la papeterie où on envoie le papier qui nous a déclassé d'un facteur 3 le prix du papier qu'on a amené dans une benne la semaine passée. Et ça, c'est dommage, parce que finalement, c'est le citoyen qui en pâtit, vu que la taxe de base doit compenser pour ce manque à gagner. C'est pour ça aussi qu'on a des déchetteries surveillées, comme Pleine Roche, où là, on essaie d'éviter justement que les gens mettent ou n'obéissent pas aux règles de tri. Alors ça paraît policier, cette politique, mais c'est la réalité, je veux dire. Il faut absolument aider la population à comprendre qu'est-ce qu'on met dans la benne à papier et qu'est-ce qu'on ne met pas dans la benne à papier. Un exemple typique, c'est le sac en papier que vous utilisez pour faire vos commissions. Si on ne sait pas, ben on le met dans la benne à papier, alors que c'est quelque chose qui n'est pas recyclable en tant que tel. Donc on le voit dans les déchetteries, la qualité des déchets qui sont repris sont meilleurs, ce qui permet de les valoriser mieux dans les filières de recyclage. Et c'est pour ça qu'on a l'obligation d'avoir ces déchetteries surveillées. On le voit aussi avec le PET. Pourquoi on ne met pas des récupérateurs de PET aux éco-points? C'est parce qu'il y a... Le lot entier est gaspillé. On doit payer pour le recycler, alors que si on a un lot de PET qui est propre, on reçoit de l'argent de PET Recycling. Donc c'est pas, y a une hiérarchie dans la gestion des déchets qui a été définie. Ça n'a pas été fait par hasard, ça a été fait parce qu'il y a une réalité économique aussi et de service auprès de la population.
Oui, monsieur.
Écoutez, je suis extrêmement surpris d'entendre qu'on met maintenant des caméras de surveillance au point de cueillette. Concernant les polymères, je peux vous dire, pour avoir fait une formation dans ce secteur, que moi-même, j'ai appris beaucoup de choses concernant les polymères, que la structure est très mal organisée. Allez faire savoir à une vieille dame qui met sa bouteille de lait dans un conteneur que c'est un multicouche, souvent 5 ou 7 couches, que ce n'est pas recyclable. On devrait quand même faire un effort important sur les fabricants de déchets au lieu de culpabiliser ou voire même aller jusqu'en justice envers la personne qui veut bien faire et d'organiser une structure cohérente chez les manufacturiers, que 1, 2, 3, 4, 5, 6 et autres ne suffisent pas. Et que sur les bennes, si vous mettiez un, les gens mettraient un. Si vous mettiez deux, ils mettraient deux. Les gens ne sont pas des imbéciles et ne sont surtout pas des coupables en devenir.
Oui, monsieur.
Oui, peut-être que les propos de monsieur Maître tout à l'heure étaient sur le terme surveillance. J'aimerais juste revenir là-dessus. Il n'y a pas de surveillance. Vous avez évoqué la question des caméras. Il n'y a pas de caméras. Moi, je suis responsable de Pleine Roche. On n'a pas de caméra à Pleine Roche. On aide les gens qui viennent. On leur donne un coup de main. On les aide à décharger, à trier. On répond à leurs questions parce que des fois, on ne sait pas où il faut mettre quoi. Mais il n'y a pas de surveillance. Par contre, le périmètre, évidemment, est fermé parce qu'on a vécu ça, notamment à Courtaillot et ailleurs. Vous avez parfois des gens qui veulent venir prendre des objets pour les revendre. Alors, OK, ça, c'est encore tout autre chose. Mais il n'y a pas de surveillance, qu'on soit bien clair là-dessus. Je n'ai pas de caméra. On n'a pas installé de caméra à Pleine Roche.
Est-ce qu'on pourrait s'imaginer que dans un futur lointain, la gestion des déchets sera rentable ou, disons, ne coûte plus rien parce qu'on valorise suffisamment les déchets?
Alors, pour certaines fractions de déchets, c'est déjà le cas. Mais dans la globalité, non, parce qu'il y a certains déchets qui coûtent pour le traitement, notamment si je prends l'incinération, c'est un coût important, l'incinération des déchets. Il y a toute la partie écologique derrière qui coûte énormément dans l'exploitation des usines. Par contre, il y a certains déchets qui le sont déjà rentables. Et je dirais que c'est peut-être là aussi la problématique entre le public et le privé, c'est que le public a pour mission de gérer l'entier des déchets, alors que le secteur privé va surtout se focaliser où il y a de l'argent, où c'est rentable. Et c'est là aussi qu'on a ce débat d'essayer de remonter la chaîne, de remonter la responsabilité aux producteurs, malheureusement, ou les distributeurs. Les distributeurs sont surtout intéressés à prendre des déchets qui sont rentables à valoriser et laisser les déchets qui ne sont pas rentables à valoriser aux collectivités. Mais l'économie des déchets existe depuis très longtemps. Elle existe depuis des siècles, finalement. Donc, on ne l'a pas inventé aujourd'hui. Si vous connaissez, pour ne pas les nommer, Veolia, par exemple, ce n'est pas une petite entreprise. Donc, on voit que dans ce domaine-là, on peut faire énormément de business. Et ce n'est pas nouveau.
C'est vrai, je voulais rebondir, mais si on va bien avant les entreprises privées, les déchets étaient gérés en premier par les chiffonniers, donc par des personnes qui étaient en dehors de la société, qui récupéraient les matières et qui les revendaient ensuite. Et donc le recyclage a existé bien avant que les entreprises privées commencent à gérer toutes ces matières. J'avais quelque chose à ajouter par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des mesures prises, par exemple, par les entreprises. Je ne suis pas en train de critiquer le secteur privé en particulier, mais il faut bien faire attention aux mesures prises par les entreprises pour réduire les déchets, parce que des fois, ce coût est porté sur le consommateur, mais à son détriment. C'est le cas, par exemple, à Toronto, où dans les commerces, on fait payer les sacs pour les courses. Mais après, les consommateurs demandaient, mais où va l'argent? Effectivement, ça rentrait dans les poches des commerces, mais rien n'était fait pour la prévention à la source des déchets. Donc, ce qu'on peut dire, en tout cas au niveau de la taxe au sac, c'est qu'il n'y a pas de profit. Les revenus de la taxe au sac vont par exemple vers l'incinération. Donc c'est quelque chose où il n'y a pas de profit fait sur la taxe au sac. C'était juste un
point. Je voulais ajouter juste un élément sur l'aspect du marché, parce que je pense qu'on a une situation quand même particulière en Suisse. Il faut savoir que les principales activités de recyclage en Suisse n'en sont en fait pas. C'est des activités de collecte, massification. C'est-à-dire qu'on exporte énormément de nos déchets à l'extérieur, parce que le marché suisse est trop petit pour avoir des installations rentables de recyclage. Alors, je ne parle pas du PET, pour lequel on en a, le papier, on en a également, mais les métaux, par exemple, n'ayant pas d'industrie des métaux, de l'acier et autres en Suisse, eh ben, du coup, tout ça part à l'étranger. Donc, en fait, le marché du déchet, pour parler de rentabilité, ne fait pas, est lui aussi soumis aux lois en fait, de la globalisation à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus intérêt à exporter à l'extérieur, jusqu'en Chine, dont les produits nous reviennent d'ailleurs parfois. Et on pourrait, ensuite, sous forme de produits transformés, et donc, on pourrait avoir des meilleures conditions dans certains cas, si on pouvait trouver, et c'est aussi l'objectif maintenant, des technologies qui émergent de plus en plus pour recycler beaucoup plus facilement des déchets à moins de température, à moindre coût, avec moins de produits chimiques, avec d'autres utilités, en travaillant aussi d'ailleurs sur les produits premiers, ce qu'on consomme au départ. Et voilà, mais c'était juste pour dire que finalement ça ne fait pas exception au marché globalisé dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui.
Oui, madame.
Il y a eu l'été dernier passablement une discussion autour de la possibilité de soustraire le plastique aux taxes au sac. Et je voulais d'abord remercier M. Sandro d'avoir soutenu, en tout cas les personnes dans la commune de Neuchâtel qui tenaient à pouvoir continuer à trier le plastique. Moi-même, je suis une formation pratique dans le plastique depuis une année et demie. Et quand je lis que c'est difficile de trier le plastique, ben, moi ça me fait un petit peu sourire parce que j'ai un peu le sentiment que peut-être la moitié même plus du plastique, bon, ben, qu'on nettoie un peu quand il faut, est facile à reconnaître tout simplement en sachant compter de 1 à 6. en lisant avec des bonnes lunettes ou si jamais une loupe, pour trouver les chiffres, pour ne pas se tromper. Alors, je voulais savoir où en était le débat par rapport à ce tri éventuel. Et puis, voilà, ce qui pourrait se passer.
Là, c'est pas lié à la caméra, à la surveillance, mais c'est exactement cette question d'avoir quelque chose de bien défini sur déjà une norme qui est très bien faite. De 1 à 6.
Voilà. Avec la couleur en plus. Bon, ça peut faire 7 maximum.
Oui, je remercie Madame de vos remerciements, bien sûr, et de votre question. Vous vous souvenez, effectivement, il y a quelques mois, le Conseil d'État avait pris la décision de ne pas trier le plastique. Hein, et à Neuchâtel, avant l'introduction de la taxe au sac, on triait déjà le plastique. Et on a une filière du plastique par l'entreprise Bühlmann qui nous récupère ce plastique, qui fait un certain tri, et puis voilà. Alors, évidemment, aujourd'hui, la difficulté, donc on va continuer de trier le plastique. Hein, on est parfois en désaccord avec M. Maître, parce que, évidemment, le pouvoir calorifique du plastique, quand il est au four, il est très élevé, c'est du pétrole. Hein. Mais on va continuer, en tout cas, nous, on continuera de se battre pour qu'on puisse continuer de trier le plastique et développer la filière du plastique, parce que c'est ça qui est fondamental. Si vous développez la filière du plastique, vous pouvez recycler le plastique et l'utiliser à créer des objets. Prenez un exemple tout bête, hein, les cônes que vous voyez sur la route, quand vous devez dévier la circulation, on n'a pas besoin de produire un plastique 18 carats. Hein, je veux dire, vous pouvez faire ça avec du plastique recyclé. Donc on va continuer de se battre dans ce sens. Maintenant, la question de monsieur, vous avez peut-être mal compris, hein, vous avez évoqué caméra, c'est pour ça que je me suis permis de réagir. La question de monsieur, elle est très importante, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le 1 à 6 que vous évoquez, hein, vous le trouvez, c'est des petits triangles, hein, sous le gobelet en plastique, par exemple, vous avez le numéro. On devrait être effectivement en mesure, dans les déchetteries, de dire il y a la benne numéro 1, puis on met le plastique numéro 1. Mais alors là, il faut bien se rendre compte que c'est extrêmement exigeant pour le citoyen à qui on demanderait de trier le plastique en amont. Alors, je vous laisse vous imaginer à la maison, hein, chez vous. Moi, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en tout cas chez moi, si je dois déjà avoir une espèce de stock intermédiaire du plastique, c'est très volumineux, puis en plus numéroté 1 à 6 avant d'aller à la déchetterie, ça devient assez vite compliqué. Mais on continuera de récolter le plastique en espérant bien sûr que le Conseil d'État ne nous l'interdise pas.
Est-ce qu'il y a un pas de plus qui a été prévu dans le sens... J'avais lu justement trois catégories ou quatre ou quelque chose comme ça qui a été évoqué dans les journaux. Est-ce qu'il y a une date ou quelque
alors
chose qui est prévu pour ça?
Oui, alors la décision a été prise, hein, on dirait que ça a été communiqué comme tel. On trie un certain nombre de plastiques en fonction de la numérosité. Cette décision-là, elle est prise. Non, elle est prise, cette décision-là. Okay. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de l'appliquer concrètement. Okay. Hein, parce que, enfin, voilà, vous rentrez à la maison ce soir, et puis imaginez-vous qu'on vous dise, voilà, vous devez trier de 1 à 6. C'est quand même un tout petit peu compliqué.
Peut-être juste un complément sur le plastique, parce que c'est quand même un élément important, puis beaucoup de gens se posent des questions là-dessus. Moi, j'aimerais juste clarifier peut-être la relation des fois un petit peu ambiguë qu'il y a entre les collectivités et VADEC au niveau du tri du plastique. Pour être sûr que vous compreniez bien notre engagement, il n'y a pas de doute à avoir. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord valoriser les ressources, valoriser les matières. C'est la priorité. Comme l'a dit Madame Lupton, encore une autre priorité, c'est de ne pas avoir de déchets. Ça, c'est quand même la première priorité. Mais une fois qu'on a des déchets, il faut valoriser les matières. Et nous, à VADEC, on est clairement derrière cette politique. On le fait de différentes manières, notamment par des activités de prévention avec une coopérative qui s'appelle COSEDEC, dont je salue une des animatrices qui intervient dans les classes primaires de l'art jurassien pour essayer de sensibiliser les jeunes de la région au tri à la source. Hein. Et on le fait aussi au travers des installations de tri et la valorisation de matières, papier, carton, etc. Mais à un moment donné, il y a des matières, notamment des matières composites, qui ne peuvent plus être valorisées au niveau de leur matière et qui doivent être valorisées thermiquement. Et autant le faire dans des usines qui sont branchées sur des chauffages à distance, ce qui correspond pour VADEC environ, pour la partie chauffage, 10 millions de litres de mazout par année. Et pour la partie électrique, c'est 10 000 ménages par année. Donc, ce n'est pas forcément négatif. Mais voilà, mais si je reviens sur le plastique, Alors, le plastique, c'est vrai que c'est assez controversé. Mais il faut aussi dire que quand on a en déchetterie des mènes en plastique où dedans il y a du plastique qui ne peut pas être valorisé, et c'est le cas d'une bonne partie quand même de ce qu'il y a dans ces bennes, il faut être réaliste. Quand la benne arrive chez le repreneur, cette benne doit être retriée. Et une bonne partie, alors combien, j'estime ça en tout cas à 40%, 40% de ce plastique revient dans une usine d'incinération. Et quelquefois, suivant le repreneur, ces 40% vont à l'étranger pour ne pas forcément être récupérés au niveau de la matière, mais être brûlés. Donc, moi, ce que j'en appelle, c'est qu'il faut absolument, pour chaque matière, faire un éco-bilan de la filière. Pas seulement regarder l'argent, hein, la partie économique, mais également faire l'éco-bilan. Pour vous donner une indication, une tonne de recyclage pour le plastique, donc une tonne de plastique à recycler, nous coûte à nous aux environs de 700 francs. Voilà, il faut quand même mettre ça en rapport. Et une bonne partie reviendra dans une usine d'incinération qui n'est pas la nôtre, donc qui ne pourra pas être valorisée régionalement. La Suisse, au niveau fédéral, a démarré un groupe de travail, de réflexion pour voir quel type de filière plastique il faut mettre au niveau suisse. Ce travail n'est pas finalisé. Mais quand il le sera, je pense qu'en Suisse, on aura une politique claire au niveau des plastiques. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on est dans une zone un petit peu intermédiaire. Mais je crois que le canton de Neuchâtel a quand même fait un pas, a décidé de valoriser cette matière. Mais il faut aussi voir que derrière, ce n'est pas toujours ce que l'on croit. Donc l'outil éco-bilan, il doit absolument être utilisé dans ces filières.
Merci beaucoup à M. Maître pour ces précisions fondamentales. Il y avait encore une question sur le plastique, je crois.
Oui, à propos du plastique, il y a, je ne sais plus, 6 ou 7 numéros dans le petit triangle sous certains emballages plastiques. Alors, il y en a 5, sauf erreur, qui sont recyclables, et puis 2 qui ne sont pas recyclables. Alors, je repose la question, je remonte en amont. Est-ce qu'il ne serait pas possible, parce qu'on ne va pas demander, comme M. Sandeau l'a dit, on ne va pas demander aux gens de trier et de mettre les numéros, je ne sais plus lesquels, mais enfin ceux qui sont recyclables d'un côté, recyclables, et puis les autres mettre à la poubelle. Est-ce qu'il ne serait pas possible d'intervenir par une législation ou je ne sais quoi, mais pour peut-être monter au niveau européen, peut-être la Suisse, ça n'est pas possible, remonter au niveau européen pour que les emballages plastiques soient tous du type recyclable, qu'il n'y ait pas besoin de trier entre 1, 2, 3, 4, 5, et puis 6, et puis les autres qui ne sont pas recyclables, les 6, 7. Puis je poserai la même question à propos des emballages composites. Par exemple, les médicaments qui sont partiellement plastiques et partiellement aluminium. Est-ce que c'est toujours nécessaire d'avoir ces deux composants pour la sécurité du médicament? Est-ce que ça ne serait pas possible d'avoir un seul médicament? Parce que si vous allez à la déchetterie pour leur demander, alors ils sont bien entraînés et ils nous disent « poubelle ». Ils nous disent « poubelle », ces emballages à deux composants. Alors il faudrait remonter au niveau des producteurs des emballages. Ce n'est pas aux citoyens à faire ce tri, c'est aux producteurs. Mais où est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce qu'on peut intervenir à ce niveau-là? J'ai posé la question au service fédéral de l'environnement. Ils m'ont dit non, on ne peut pas intervenir, il n'y a pas encore de législation. Alors je leur ai dit, faites des propositions et vous connaissez un certain nombre de législateurs, de conseillers aux États, conseillers nationaux, pour essayer qu'au moins en Suisse, on puisse intervenir dans ce sens-là. Alors ils m'ont dit, oh, l'Allemagne qui recycle mieux que nous ne le font pas. Alors, bon, voilà l'inertie, mais j'aimerais qu'on aille plus loin que cela.
Je vais vous répondre sur la première question que vous avez posée sur les plastiques recyclables et non recyclables. On prend l'exemple du PET, par exemple, qu'on dit toujours recyclable. Nous recyclons le PET en Suisse. Il faut savoir que pour refaire du PET à partir de PET usagé, il vous faut ajouter au moins la même quantité de plastique neuf. Donc, on ne fait pas du PET avec du PET usagé, on fait du PET recyclé à partir d'une partie du PET usagé et de nouveaux plastiques. Donc les matières se dégradent toujours. Donc on peut utiliser, bien entendu, des matières qui sont recyclables, des plastiques de haute qualité recyclables, mais qu'est-ce qu'on fait si on n'utilise plus que ceux-ci? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces plastiques que finalement, effectivement, ne sont pas recyclables, ne sont pas de très bonne qualité Et ceux-ci sont justement les emballages utilisés par les distributeurs pour les biens alimentaires, sont les sacs plastiques qu'on vous donne dans les grands magasins qui eux-mêmes ne se recyclent plus parce que dès que vous les chauffez, ils partent en lambeaux. Donc on ne peut plus rien faire d'autre que les incinérer. Donc la boucle du recyclage n'est jamais une boucle fermée. Il y a très très peu de matière, il n'y a que les métaux pratiquement qu'on recycle à 100% à partir de la matière usagée. Donc on doit toujours introduire des matériaux neufs. Donc dans ces cycles-là, je pense que c'est utile d'avoir des utilisations de matériaux qui sont dans leur dernière utilisation en fin de vie, parce que finalement c'est quand même une utilisation qui substitue ça à une matière à plus haute valeur ajoutée, qu'on n'a pas besoin d'utiliser pour cette utilisation, et que finalement on va arriver à de la valorisation énergétique derrière. Mais alors c'est vrai que dans cette valorisation énergétique, ce serait bien qu'il n'y ait que les plastiques qui ne peuvent pas encore avoir un cycle de vie supplémentaire. Maintenant, pour ce qui est des emballages à plusieurs couches, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne sais pas si quelqu'un peut...
Alors là, je parle seulement en tant qu'économiste, mais je me demande si un des freins par rapport à ce que vous suggérez, qui est tout à fait logique, ce n'est pas le frein économique des entreprises multinationales qui sont, en fait, les entreprises pharmaceutiques qui sont des multinationales. Il faudrait un accord global. Et comme tout accord global, on n'a qu'à voir le changement climatique, c'est un casse-tête pas possible. Contraindre toutes ces entreprises, parce qu'il ne faut pas seulement contraindre les entreprises suisses dans ce cas-là, ça va demander vraiment un lever de bouclier, soit au niveau citoyen ou des pouvoirs publics. Et ça, à mon avis, ça va prendre du temps. Mais c'est possible à imaginer parce que dans certains pays, ils distribuent les médicaments dans des conteneurs en plastique. Donc c'est envisageable.
Vous avez peut-être aussi entendu ou vu à la télévision un documentaire assez intéressant sur la contamination de certaines denrées alimentaires par des polluants dans le carton recyclé. On voit aussi que, quelquefois, on a des limites dans ce qu'on peut faire. Donc, à force de recycler le carton, à un moment donné, vous avez des concentrations de polluants, notamment qui sont dans les encres, qui migrent du contenant au contenu. Voilà, donc il y a aussi des limites à ce niveau-là qu'il faut prendre en compte. Quoi. Donc ce n'est pas absolument parfait, tout le système de recyclage. Mais au niveau du plastique, il y a un travail qui doit être fait au niveau suisse. Je crois que ça, c'est clair. Si on regarde par rapport à d'autres pays avoisinants, la Suisse n'a pas une politique de recyclage du plastique qui tient encore la route. Elle doit absolument être améliorée. Je crois que l'Office fédéral travaille dessus ardemment. Il y a aussi la possibilité où ils réfléchissent avec des producteurs. Donc l'Office fédéral a créé un groupe de travail avec des producteurs de produits plastiques. Et dans ce groupe de travail, ils parlent par exemple de contributions anticipées de recyclage qu'on prélèverait ou que le producteur devrait verser pour recycler après coup, pour financer le recyclage après coup de ces produits. Mais je suis d'accord avec vous, si on prend maintenant la taxe au sac, si on revient à la taxe au sac, la taxe au sac fonctionne extrêmement bien au niveau du citoyen, comme l'a dit M. Sandeau, je crois qu'il y a réellement un succès à ce niveau-là, cette taxe incitative, mais quelle est la pression de la taxe au sac sur les producteurs de déchets en amont? Et c'est là que j'ai franchement un doute. Je ne pense pas que ce type de taxe pourra vraiment ou va vraiment influencer les producteurs de produits, de faire des produits qui tiennent ou qui sont adaptés au recyclage.
Oui, juste un bref complément sur, puisqu'on parlait des conditions cadres, du poids des lois. Alors, je partage l'avis qui vient d'être émis par M. Maître, mais vous dire quand même que dans la loi, il est prévu, alors c'est un stade intermédiaire par rapport à toucher le producteur, qu'une entreprise, centre commercial ou analogue, à ses frais, doit mettre à disposition des clients, que nous sommes tous, des installations nécessaires à la collecte, au tri et à l'élimination des déchets. Donc, ça, c'est ce qu'on a pu faire dans la loi pour obliger, à quelque part, les centres commerciaux à mettre des installations en place. Donc, c'est des charges pour eux. Forcément, ça fait réfléchir et eux feront pression en amont pour dire « mais vous arrêtez de me livrer des biscuits à trois emballages parce qu'il y en a deux qui finissent dans mes installations de centre commercial. » Donc ça, on a fait. La loi, c'est putatif. Il s'agit, c'est mis peu. Les communes peuvent obliger. La ville de Neuchâtel a obligé. Donc on est allé dans ce sens-là. Alors ça influence indirectement par le cadre légal le producteur. Et puis vous, comme moi, nous avons une responsabilité. Est-ce qu'on veut vraiment continuer? Je prends l'exemple des paquets de biscuits qui me vient à l'esprit, mais il y a peut-être d'autres choses. À l'époque, on avait le dentifrice qui était emballé encore dans du carton. Est-ce que nous allons continuer d'acquérir ça? Voilà, à partir du moment où il y a un mouvement citoyen qui dit « j'achète plus mon dentifrice emballé avec du carton », bon, heureusement, ça n'existe plus, eh ben, on a aussi un moyen de faire pression. Ça, c'est ce qu'on peut faire, je dirais, immédiatement, « bottom up ». Après le reste, évidemment, il faut travailler sur les normes. Mais ça, c'est tout un chapitre. Et là, je ne suis pas du tout spécialiste.
Voilà, moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la proposition, peut-être un peu utopiste, qui consisterait à mieux intégrer le prix d'un produit. Et donc, pas seulement de faire payer au consommateur le prix de la production, mais en fait, d'intégrer dans le prix du produit le coût de la gestion du déchet que le produit va engendrer, en fait.
Qui veut s'exprimer à ce sujet? Madame Lupton.
Alors, c'est une très bonne idée. Donc, le coût de la gestion du déchet se répercuterait sur le prix du produit. Oui, mais est-ce que c'est finalement au consommateur final de payer ce prix? Je ne suis pas sûre que ça soit réellement juste pour le consommateur.
Pardon, je suis désolée, je rebondis tout de suite. Oui. Mais à partir du moment où on paye une taxe poubelle, de facto, c'est ce qu'on fait, non? C'est-à-dire, c'est quand même aux frais de la collectivité après toute cette...
Mais
et quelque part, ça inciterait, ça ce serait un système très incitatif pour simplement déjà se débarrasser de tous les emballages inutiles et de réduire simplement aussi le...
Ajouter deux petits éléments. Ça existe déjà pour les appareils électroménagers, la taxe anticipée de recyclage. C'est efficace, mais ça n'a pas vraiment incité, on va dire, les producteurs à faire des produits éco-conçus, parce que comme ils payent finalement tous la même chose pour les mêmes types de produits, c'est le consommateur qui paye en plus dans le magasin, avec les magasins qui ont l'obligation de reprendre en fin de vie n'importe quel produit, même s'il n'a pas été acheté chez eux. Donc là, ça n'a pas été un incitatif très grand, par contre, ça marche bien au niveau de la collecte. L'autre élément, c'est que... il m'échappe, voilà. Donc je vais passer la parole à M. Maître, et si ça me revient, je dirai un mot.
Alors effectivement, il n'y a aucun instrument qui est très efficace à ce niveau-là, à mon avis, pour augmenter la pression sur le producteur. Et c'est là que le bas blesse, parce que finalement, c'est qui paye cette production de déchets qu'on ne veut pas? Ben, c'est vous et moi, quoi. Donc, historiquement, la pression économique de la gestion des déchets n'a pas toujours été sur le public, hein. Lors de la révolution industrielle, là vraiment on a commencé à gérer les déchets de manière systématique, c'était des entreprises privées qui le faisaient. Puis pour des raisons sanitaires, on a voulu, hein, parce qu'il y avait des problèmes de fumier d'animaux dans les villes, etc. C'est assez intéressant d'ailleurs l'histoire de la gestion des déchets, quand on s'y penche. Ben, c'est là qu'on a demandé à la collectivité de commencer à gérer ces déchets pour des raisons sanitaires. C'est presque devenu une habitude. Puis c'est presque, à mon avis, devenu une mauvaise habitude. C'est-à-dire que ça nous paraît normal que ça soit nous, citoyens, qui payons pour des déchets qu'on n'a pas voulu. Et c'est là qu'il faut qu'on trouve des instruments politiques, certainement économiques, pour remonter cette pression le plus haut possible dans la chaîne de production de déchets.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour revenir juste sur la question des produits et faire payer, par exemple, le consommateur. Il y a déjà les écolabels, et ça, c'est de façon plus globale. On a, finalement, un respect de l'environnement du début jusqu'à la fin de vie du produit, donc la gestion du déchet. Finalement, c'est le consommateur qui paye le surplus environnemental, c'est-à-dire la qualité environnementale du produit, c'est le consommateur qui le paye, il le sait. Maintenant, demander au consommateur, de façon générale, qu'il paye le coût environnemental... Je ne suis pas sûre que ça soit juste, dans le sens que les entreprises font aussi des profits sur l'environnement. Quand elles recyclent des déchets à l'intérieur du processus de production, pourquoi on ne ferait pas payer moins cher le consommateur? Au contraire. Donc, il y a des économies faites aussi. Hein. Ça peut être très rentable, par exemple, de recycler des déchets dans les cimenteries ou utiliser les déchets dans les cimenteries, avoir on fait des économies là-dessus. Et on ne le fait pas payer ensuite aux consommateurs, ces économies-là. Donc bon, comment se distribuent les économies aussi? J'avais une autre question, et je ne sais plus qu'est-ce qu'on était en train de dire avant. Ce n'est pas grave, donc apparemment ça se... c'est contagieux. Attention, c'est le prochain.
Oui, il y a encore d'autres questions sur la taxe au sac, tri des déchets au niveau ménager. Désolé, j'ai deux canaux de transmission là.
C'est pas le lien direct avec le...
Alors peut-être on la garde pour la deuxième partie si c'est les déchets industriels. Monsieur ?
Merci. Oui, moi j'aime beaucoup l'exemple du dentifrice que vous donnez, monsieur Sandeau, parce que là, on a quand même un bel exemple de précurseur. C'est Migros qui a lancé ça. Mais Migros a lancé ça bien avant qu'on ait une taxe au sac, qu'on veuille répercuter quoi que ce soit sur le producteur. Donc, Migros a reçu un label pour cet élément-là de suppression du carton du dentifrice. Et je crois que ça, c'est aussi des beaux exemples qu'on devrait peut-être plus mettre en avant, de montrer qu'il y a quand même des distributeurs qui font l'effort de réduire les déchets et pas uniquement de diaboliser toujours le distributeur, alors qu'il y en a qui font des efforts volontaires sans aucune autre base que de donner une bonne image à la distribution. Ça, c'était juste une remarque. Peut-être pour ma question... On parle de taxe au sac et de taxe de base d'élimination des déchets. Au moment où elle a été introduite dans le canton de Neuchâtel, il y a certaines communes qui ont décidé de réduire la taxe de base en compensation de l'introduction de la taxe au sac. Qu'en est-il dans la ville de Neuchâtel? Est-ce que ce mécanisme, donc pour ne pas accroître la pression fiscale sur le consommateur, mais aller jusqu'au bout du mécanisme incitatif économique, qui a un sens à mon avis, est-ce que la taxe de base d'élimination des déchets et la taxe au sac sont liées dans les frais de gestion des déchets des collectivités publiques?
Merci de votre question et de l'exemple que vous avez donné concernant le dentifrice. Je crois que j'ai lâché le mot éthique tout à l'heure. Ça fait partie de la responsabilité des entrepreneurs. Hein, et je tire mon chapeau. Concernant l'ancien système et le nouveau système de taxes de base, hein, c'est tout simplement pas comparable. Donc on oublie complètement l'ancien système où on avait une taxe de base et puis voilà, il y avait tout là-dedans. Et j'essaye de vous expliquer le plus simplement possible le nouveau système. Aujourd'hui, la taxe au sac, qu'on connaît bien parce qu'on va acheter ses cornets, les 2 francs pour les 35 litres qui sont fixés dans la loi, ça sert à l'élimination des ordures ménagères. Mieux vous triez, moins vous devez acheter de sacs, moins ça vous coûte. Et c'est votre façon de gérer vous-même, je dirais, le poids de la taxe. Puis il y a une autre taxe qui est ce qu'on appelle la taxe de base. Celle-là, elle n'a rien à voir avec l'élimination des déchets. Elle sert à financer toute l'infrastructure nécessaire au ramassage des déchets, les containers enterrés, les éco-points, la déchetterie, etc. Et cette taxe-là varie d'une commune à l'autre, mais si elle varie d'une commune à l'autre, c'est parce qu'il y a des infrastructures plus ou moins grandes. Hein, c'est pour ça que, je ne sais pas, nous on paye, je crois, 114 francs, et puis d'autres un peu moins, puis d'autres un peu plus. Et ce montant-là, on doit tout faire pour essayer de le garder un peu plus bas. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais... Ma grand-maman, qui vit toute seule, qui doit quand même payer ses 114 francs, est-ce que c'est juste ou pas? C'est aussi important comme question. Et c'est pour ça qu'il y a une part d'impôt qui a été fixée dans la loi. On peut mettre entre 20 et 30, hein, si je me rappelle bien, % de l'impôt pour contenir cette taxe. Et c'est pour ça que vous avez encore cette variation qui peut exister. Alors, la ville de Neuchâtel a été... pragmatique, ou enfin, un jugement de Salomon, je ne sais pas, on a pris 25%. Donc il y a 25% de l'impôt qui influence la taxe de base. Alors, évidemment, on aurait pu mettre 30, alors on n'aurait pas payé 114, mais un peu moins. On aurait pu mettre 20, on aurait payé un peu plus. Hein, c'est un petit peu l'aspect, je dirais, social de la taxe. Et voilà comment ça fonctionne. Hein, c'est ça qui... Mais ce n'est pas l'un contre l'autre. Hein, on ne peut pas jouer la taxe qui sert à financer l'élimination avec les 2 francs qui sert à brûler les ordures ménagères. C'est deux choses différentes.
juste pour réagir, comment est-ce que c'était financé avant la taxe au sac? C'était que l'impôt?
Oui, c'était que l'impôt. Et aujourd'hui, pour les ordures, la seule chose qui est 100% financée par l'impôt, c'est les ordures que vous mettez dans les poubelles publiques. Voilà, en ville, on a des 110 litres un peu partout. Ben, quand on met ça là-dedans, alors ça, c'est pas payé par vos taxes, c'est payé par l'impôt.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore peut-être une dernière question sur la taxe au sac? Monsieur tout au fond.
Oui, alors vous avez parlé de la taxe de base pour le ramassage. Je me demande, en fait, en ce qui concerne le ramassage des déchets encombrants, ce qui a changé, en fait. Nous, les habitants de Neuchâtel, on doit se rendre par nos propres moyens, en fait, déposer les encombrants à la déchetterie. Est-ce que le fait que cette taxe de base soit peut-être mise au plus bas empêche qu'il y ait un système de ramassage pour ceux qui n'ont pas de voiture, par exemple, ou qui sont seuls? Voilà, je ne sais pas où vous en êtes dans la réflexion.
Vous posez une question, à vrai dire, très intéressante, c'est quel niveau de prestation est-ce qu'on doit atteindre? C'est ça, hein, finalement. Je ne sais pas, moi, si le citoyen de la ville de Neuchâtel est d'accord de payer 200 francs sa taxe de base ou 250 francs et avoir du ramassage porte-à-porte et puis au lieu d'avoir 56 éco-points, d'en avoir une centaine. Voilà, c'est ça la question. Hein. Et voilà, l'infrastructure est ce qu'elle est. On s'est limité à ça. On est parti du principe que c'était suffisant. Alors, voilà, peut-être pour certains, ça ne l'est pas. Puis je m'empresse de dire qu'il y a la possibilité d'être aidé. Par exemple, si vous avez un problème de mobilité, si vous êtes à mobilité réduite, hein, on peut faire appel à une entreprise qui fait ce genre de travail pour vous, contre paiement. Enfin, on peut faire appel à ça. Mais je suis parfaitement conscient que la personne qui, je sais pas, veut changer son matelas et puis qui n'a pas de voiture, ben, elle doit jouer la carte de la solidarité et puis discuter avec les copains et puis dire « Les gars, vous venez, on va ensemble, on amène mon matelas là-bas puis je vous offre les spaghettis. »
Merci beaucoup à la réponse de M. Sandeau. Je crois que, bon, on va arrêter l'exercice de discussion sur la taxe au sac ici, compte tenu de la contrainte temporelle. Il nous reste une vingtaine de minutes et nous aurions bien aimé entendre nos spécialistes d'écologie industrielle, en particulier M. Massard, se prononcer sur d'autres questions. Maintenant, merci à tous pour vos questions sur la taxe au sac, ce problème de tri des déchets ménagers. Et merci aussi aux réponses de tous nos intervenants. Donc, concernant les déchets industriels, est-ce que je pourrais demander à M. Massard de nous parler de son domaine de prédilection, qui est la mutualisation des entreprises, des PME en particulier, dans ce domaine? Et puis ensuite, on lancera la discussion à plus générale. J'oublie pas que monsieur avait une question sur les déchets industriels, sans doute.
Oui, effectivement. Je vais juste revenir sur l'aspect de Migros, parce qu'en fait, c'est ce qui m'est revenu avant. Migros à Genève, je ne sais pas si c'est le cas à Neuchâtel, ne distribue plus de sacs plastiques au centre-ville de Genève depuis quelques années maintenant. C'est que à Genève. Ben, ça a fait râler tout le monde, et puis finalement, tout le monde s'est habitué, puis ça pose aucun problème. La COP à Neuchâtel a arrêté, voilà. Donc quand on parle des plastiques de mauvaise qualité qui finissent dans l'incinérateur, finalement, ben, les grands distributeurs arrêtent aussi des fois de les donner. Donc c'est bien. Les tout fins, les petits sacs, oh, ils ne se recyclent pas tellement ceux-là, à ma connaissance. Ils s'incinèrent. D'accord, mais volontiers pour poursuivre le débat, alors, parce que vous avez peut-être d'autres informations que les miennes. Alors si on parle des entreprises, je vais peut-être dire deux choses. Il y a un problème qui n'est pas si éloigné que celui de la taxe au sac, c'est celui des PME, c'est-à-dire des entreprises qui sont dans le tissu urbain et qui se trouvent, bah, ce sont les magasins, ce sont des petites entreprises, ça peut être dans la construction, de la robinetterie, d'autres, enfin, je ne sais pas, des ateliers de conception, choses comme ça, qui se trouvent vraiment dans le tissu urbain. On parlera des zones industrielles, des industries lourdes après. Et ben, ces entreprises, il y a toujours eu une tolérance aussi pour qu'elles puissent mettre leurs déchets avec les déchets municipaux. Parce qu'on sait que c'est beaucoup trop coûteux, finalement, que de demander à chaque entreprise, qui ont parfois 3 employés, hein, d'avoir un contrat avec un repreneur de PET, un contrat avec un repreneur de papier, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, cette tolérance a tendance un peu à diminuer. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que c'est vrai qu'on est ici dans la collecte des déchets ménagers en ville. C'est le rôle de la municipalité. Pour les déchets d'entreprise, c'est le pollueur-payeur, donc c'est l'entreprise qui doit payer. Et une idée ici, issue de l'écologie industrielle, c'est la mutualisation, justement. C'est-à-dire qu'on peut faire se rencontrer les industriels d'une rue, d'un pâté de maison, d'un quartier, et puis leur faire faire des contrats communs avec des entreprises de recyclage. Ça demande un travail de dialogue, d'instauration de confiance entre les différentes PME, et puis d'étudier un petit peu le système, et ainsi de pouvoir faire un travail commun qui coûte beaucoup moins cher finalement à chaque entreprise. Ça, c'est l'aspect économique. Et puis au niveau environnemental, si chaque commerce de votre rue demandait 5 contrats de désapprovisionnement en déchets, vous pouvez imaginer le nombre de camions, camionnettes, même s'ils font ça en triporteur électrique, vous aurez des bouchons de vélos électriques dans vos rues. Donc l'idée, c'est aussi d'améliorer la logistique, de rendre ça plus efficace. Donc ça, c'est une tendance qui est en fort développement, et auquel nous on croit beaucoup, du moment finalement que la législation se durcit pour les petites PME, c'est quelque chose qui va voir le jour, et différents cantons s'y intéressent, on a des cas déjà mis en place qui se font bien. Et maintenant si on passe sur les déchets industriels, ce que produisent les producteurs des produits qu'on consomme finalement, c'est vrai que la situation n'est pas toujours évidente. C'est ce qu'on appelle du coup les déchets dangereux. Donc on a aussi les déchets banaux des entreprises, hein, les mêmes qui sont produits par les ménages, on les retrouve chez les grandes entreprises. Mais à côté de ça, on a tout ce que est considéré comme déchets spéciaux ou déchets dangereux qui demandent des dispositions particulières selon la législation pour être pris en charge par des recycleurs agréés. Là, effectivement, on a des filières de valorisation qui se développent quand même fortement. Il faut savoir qu'en Suisse, on met plus rien en décharge, hein, non plus. On exporte une petite partie encore de déchets très toxiques qu'on ne saurait même pas incinérer, qui peuvent dans certains cas finir dans des décharges spécifiques pour ces produits en Allemagne ou ailleurs, mais c'est assez marginal. On gère assez bien nos déchets chimiques, on en incinère beaucoup. Parfois dans des incinérateurs d'ordures ménagères aussi, dans lesquels on a des possibilités d'ajouter par exemple des solvants usagés de l'industrie chimique, de l'industrie pharmaceutique, ou alors dans des installations spécifiques comme à Bâle, autour des installations de chimie, où on a un incinérateur spécifiquement pour des déchets dangereux à pouvoir calorifique et qui finalement produisent, comme les incinérateurs pour ordures ménagères, produisent de la chaleur, de l'électricité pour ces industries. Donc c'est des choses qui marchent bien. Et là aussi, donc, des dynamiques d'écologie industrielle peuvent être mises en place de deux types. À nouveau, la mutualisation. Alors, on est beaucoup dans des économies d'échelle, dans des économies financières pour les entreprises. Mais également, ce qu'on appelle la réutilisation de déchets ou ces symbioses industrielles, c'est-à-dire... J'ai mon voisin qui produit un déchet d'un certain type, est-ce que je ne peux pas l'utiliser moi-même dans ma propre activité? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on court-circuite complètement le système du recyclage. Et ça a posé des problèmes légaux, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'un déchet va d'une entreprise à une autre, ne passe pas par des recycleurs agréés, donc légalement ça peut être délicat. Mais ça amène un certain nombre de solutions locales. Alors ça existe en Suisse, pour des résidus de produits chimiques, par exemple, où on a des entreprises pharmaceutiques qui collaborent avec des papeteries pour réutiliser des déchets d'eau qui contiennent du phosphore, pour réutiliser des déchets de différents acides. Donc là, on ne passe carrément pas par le système de recyclage. On économise aussi des prises en charge, donc chaque fois des marges qui doivent être prises, et c'est intéressant. Maintenant, ces solutions ont aussi été agréées, donc je ne vais pas vous dire qu'on contourne la loi ici, ont aussi été agréées par les organismes officiel en Suisse, et donc ça pose pas vraiment de problème. Donc voilà, on a des exemples de ce type là qui existent, qui pourraient un peu se développer, mais on peut pas faire ça avec tout. Donc de toute façon, l'industrie du recyclage en Suisse pour les déchets d'entreprise, pour les déchets dangereux, eh bien là on en a bien besoin, et tant qu'on changera pas les produits utilisés pour produire nos biens de consommation, on s'en passera pas. Je ne sais pas si j'étais assez clair ou je ne vais pas trop m'étendre.
Je crois que si vous n'avez pas été clair, des questions vont surgir. Ou au contraire, vous avez été trop clair. Est-ce que, tout d'abord, les intervenants veulent compléter ce qu'a dit M. Massard? Oui, M. Sandeau.
Pardon, non, je n'aurais pas la prétention de compléter. Hein, je trouve l'idée intéressante. Mais juste dire que la problématique des PME et surtout des commerces au centre-ville de Neuchâtel, par exemple, ça a vraiment été une difficulté, que ce soit avant ou après la taxe au sac. On prend toujours cet exemple un peu bateau, hein, le vendeur de souliers, ben, il a des cartons, et voilà, puis c'est pas quoi en faire. Donc on a dû nous mettre à disposition une infrastructure suffisamment importante pour que les PME puissent aussi se débarrasser de leurs déchets, mais selon la filière normale. Alors la notion de mutualisation, je suis content de vous entendre, parce qu'à ma connaissance, à Neuchâtel, ça n'existe pas. On a soit des grandes entreprises, Migros, Coop, pour ne pas les citer, qui alors éliminent elles-mêmes leurs déchets, soit les PME avec les exemples que je viens d'évoquer.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions du public? Oui, monsieur, alors.
Ma question s'adresse à Madame Lupton et puis aussi à monsieur. En omettant, donc en laissant de côté les déchets dangereux, si on parle de déchets industriels ou de déchets ménagers, j'aimerais savoir, est-ce que, si on parle d'institutionnalisation, je pense qu'on doit aussi aborder le sujet de ce qui est illégal, donc de ce qui se fait en dehors de l'État. Peut-être qu'en Suisse, ce n'est pas un très bon exemple, tant mieux pour nous, mais y a d'autres pays que la Suisse, il y en a tout plein d'autres. Ma question est la suivante. Est-ce que lorsqu'on a, et je reprends les termes, j'espère les reprendre justement, à Madame Lupton, lorsqu'on a un déchet qui est une valeur négative ou nulle, et qu'il devient pour quelqu'un, ou qu'il est potentiellement pour quelqu'un une valeur positive, donc une valeur économique positive, qui peut rapporter de l'argent, est-ce qu'on doit fermer cette possibilité? Je pensais par exemple à votre commentaire tout à l'heure où vous disiez on a dû mettre des enceintes autour des déchetteries parce que des gens venaient prendre les matériels et puis les vendaient autre part. Est-ce que c'est cette vente, si on essayait peut-être de l'organiser, si c'était possible, je ne sais pas, est-ce que ça pourrait pas être une forme entre guillemets de recyclage? Un recyclage tout simplement par une vente en seconde main, etc. Voilà, donc une question à plusieurs tiroirs. J'espère que vous allez réussir à décrypter tout ça.
Donc je vais avoir deux réponses comme il y a plusieurs tiroirs. Alors, premièrement, finalement, ce qui est intéressant par rapport aux déchets, c'est qu'il est à la fois, il est sans propriétaire puisqu'on l'abandonne, mais il y a plusieurs personnes qui peuvent vouloir l'approprier puisqu'il peut avoir une valeur ou il peut être valorisé, recyclé et générer des revenus. Donc, à qui appartient le déchet lorsqu'il est mis en déchetterie? Peut-être il appartient au pouvoir public, mais la vraie question, c'est finalement, les pouvoirs publics se le sont appropriés, c'est vrai. Donc, effectivement, il peut exister des filières parallèles, mais en général, je ne sais pas en Suisse, mais généralement en Europe, elles sont interdites. C'est le chiffonnage, c'est interdit. Donc, pour éviter que d'autres filières existent, finalement, on a interdit ce type de recyclage qui pourrait et qui génère encore, par exemple en France, ça existe encore le chiffonnage, avec notamment la venue de la crise. Les personnes, par exemple, fouillent dans les poubelles pour récupérer des matières et c'est toujours, ça se développe. Maintenant, l'autre question, c'est finalement, lorsque vous, par exemple, vous exportez des déchets parce que vous n'arrivez pas à les traiter et vous le faites illégalement. Il y a deux types d'illégalité finalement. Il y a une illégalité légitime dans le sens que ces chiffonniers ne font pas de mal, ils veulent vivre. Et de l'autre côté, vous avez une illégalité illégitime parce qu'il y a une pollution générée. C'est le cas par exemple des déchets nucléaires qui ont été exportés à Tomsk, entreposés comme ça, en plein air, c'était magnifique. Donc on pouvait voir ça sur Google Earth, il y a les informations là, dans le livre. Et donc il y a des conteneurs comme ça, avec des déchets nucléaires entreposés à Tomsk, donc en Sibérie, dans le désert. Donc là c'était clairement illégal et illégitime, parce qu'on mettait en cause la santé publique. Et là, c'est insupportable. Et d'ailleurs, après, ça a été interdit. Donc, il y a vraiment... la question du déchet est vraiment intéressante parce qu'elle n'appartient à personne, on peut l'approprier à bon ou à mauvais escient. Et tout dépend de ce qu'on veut en faire après. Donc, c'est vraiment une question tout à fait intéressante. Et je vous remercie.
Monsieur Maître voulait apporter un complément peut-être avant d'autres questions.
Monsieur Maître aussi. Dans le temps, la récupération se faisait automatiquement. Ce n'était pas des déchets nucléaires, c'était des commodes, des fauteuils. Alors, on se plaint du gaspillage à outrance et puis on empêche les gens de récupérer. Et la deuxième chose, puisque c'est Monsieur Maître qui va répondre, j'ai entendu, puis j'ai aussi lu, que du fait que les gens trient trop bien, il n'y a plus assez de papier, on ne peut plus brûler, ça brûle moins bien. Et puis, alors, il faut rajouter, il faut racheter des vieux papiers pour remettre dans la chaudière de Vadec.
Alors, peut-être pour ajouter une information par rapport à ce que vous avez dit sur cette réutilisation des produits, finalement. Il existe le concept de ressourcerie, qui est très commun en France d'ailleurs, mais qui l'est peut-être un peu moins en Suisse, mais qui l'est, vous le connaissez certainement, hein, vous pouvez donner des produits usagés à des associations, des fondations, on peut utiliser les termes de Caritas ou bien centre protestant. Ben, j'ai un bon exemple, c'est la déchetterie d'Yverdon, qui est exploitée par Strid, qui a sur sa place une zone franche où vous, en tant que propriétaire du déchet, parce que vous êtes quand même encore propriétaire quand vous l'avez dans votre voiture, je suppose, hein, je ne connais pas les détails, mais je pense que vous êtes encore propriétaire, vous faites un choix consciemment, je veux dire, vous faites un choix de mettre ce déchet dans cette zone franche. Et cette zone franche, en fait, c'est là que la ressourcerie vient chercher le déchet. Il y a comme un espèce de passage officiel. Parce qu'il y a quand même un élément qui est important, c'est que certaines personnes mettent des déchets dans les déchetteries parce qu'ils veulent s'en débarrasser, mais ils veulent vraiment s'en débarrasser. Il y a un aspect émotionnel, quelquefois, avec les déchets, qui fait que, par exemple, dans le cas de décès, etc., qu'on veut que ces déchets n'arrivent pas chez quelqu'un d'autre. Donc nous, on a une responsabilité qui peut des fois être difficile à comprendre, c'est d'éviter que justement que quelqu'un qui a choisi de se débarrasser de son déchet, vraiment de le détruire, entre guillemets, ce déchet puisse arriver chez quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça qu'on n'autorise pas ce genre d'activité dans nos déchetteries. Mais le concept de ressourcerie existe, et je pense que ça va, à mon avis, se développer. Et je trouvais que le concept de Strid était très intéressant, qui est cette zone franche. Et après, la ressourcerie décide de le prendre ou pas, etc., suivant l'état du déchet. Maintenant, pour répondre à cette question, je suis content que vous posiez cette question, parce que c'est toujours une question controversée, donc je suis content de pouvoir m'exprimer là-dessus. C'est clair que quand on introduit une taxe au sac ou une taxe au poids, hein, donc ça a un impact immédiat sur la quantité de déchets incinérables. On l'a dit, ça peut aller jusqu'à 50%, 40%, ça dépend des collectivités. En général, sur le long terme, ça sera à peu près 35% de diminution. Alors bien entendu, chez nous, ça a un impact immédiat au niveau des tonnages incinérés. Mais de nouveau, j'insiste là-dessus, il ne faut pas qu'il y ait de mésentente. La priorité, c'est la matière. Donc les collectivités qui décident de mettre en place une taxe au sac ou une taxe au poids veulent absolument augmenter le taux de recyclage. Et nous, nous sommes des entreprises publiques. Donc nous devons nous adapter, nous devons accepter et nous adapter à cette politique publique, et nous le faisons. Donc c'est vrai qu'on a moins de déchets. Ben, on a géré la capacité de nos fours en 2012 de manière un peu différenciée pour que la production d'énergie n'en pâtisse pas. Par exemple, on ralentit la nuit, on réaccélère la combustion au petit matin lorsqu'il y a une demande forte en chauffage à distance, etc. Et c'est vrai aussi que nous prenons des déchets, plus de déchets de l'extérieur. Alors là, c'est aussi, ça a fait un tollé dans la presse, mais il faut aussi comprendre que Vadec, on a des actionnaires depuis le Nord-Vaudois jusqu'au fin fond de l'Ajoie, en passant par donc, tout le canton du Jura, tout le canton de Neuchâtel, en passant par le Jura-Bernois. Donc de façon extérieure, extérieure à quoi? Nous, on travaille sur 4 cantons. De plus, des usines d'incinération, elles tombent en panne. C'est quand même, ce qu'on incinère dans nos usines, ce n'est pas du gaz, hein, c'est des poubelles. Donc il y a de tout. Hein. On a retrouvé des baignoires entières dans les déchets, on a retrouvé toutes sortes de choses qui font qu'on peut provoquer des pannes. Et durant ces temps de panne, de réparation, on ne peut plus incinérer. Et on a de la chance parce qu'on a des collègues qui peuvent nous prendre les déchets. On n'a jamais eu une accumulation à la nappe dans la ville de Neuchâtel parce qu'on évacue les déchets sans arrêt. Donc cet échange de déchets entre incinérateurs, ça se fait depuis tout temps. Simplement, maintenant, nous, VADEC, on est un peu plus actifs dans ce marché, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un marché, mais c'est plutôt ces échanges. Donc il n'y a rien de spécial, simplement, voilà, on essaie de le compenser. Un autre élément, c'est qu'on ne va jamais mettre un camion de carton ou un camion de papier recyclé dans nos fours. C'est une question d'éthique, point. Je veux dire, les gens l'ont recyclé, on ne va pas le faire, quitte à ralentir les fours. Mais ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on ferait. Voilà.
Merci beaucoup, M. Maître. M. Sandeau, vous vouliez intervenir ?
Je voulais juste très brièvement dire que le concept de ressourcerie qu'a évoqué M. Maître est effectivement très intéressant. Nous observons la situation du côté d'Yverdon. Yverdon va assez loin puisque les objets qui sont dans la zone franche que vous évoquiez, ils sont également remis en état pour ensuite être vendus. Donc, mais tout ça, ça a un coût. Hein. Encore une fois, je ne sais plus qui avait posé la... Enfin, ou plutôt, c'est moi qui ai répondu du niveau de prestation. Ben là aussi, hein, c'est un coût. Alors, est-ce que c'est à la collectivité publique de payer des collaborateurs qui remettent en état un fauteuil pour qu'il soit ensuite revendu? Voilà, il faut faire des calculs. Hein. Il faut faire des calculs. Puis, toute dernière chose, mais très court, je n'aimerais pas dire des bêtises ou vous partez avec une mauvaise idée. Monsieur, tout à l'heure, je crois, moi, que ce soit celui qui est parti, avait posé la question comment c'était avant au niveau de la taxe. Est-ce que c'était que l'impôt? Avant, vous aviez une part d'impôt et une part de taxe. Mais maintenant, vous n'avez plus que la taxe.
Merci pour ces précisions. D'autres questions sur les déchets industriels? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ça nous laisse quelques minutes. On peut déborder un tout petit peu pour tenir parole, à savoir laisser une dernière fois la parole à chacun de nos intervenants, de façon à ce qu'ils se prononcent sur ce qui, à leurs yeux, constitue le défi majeur à relever pour les années à venir. Il y avait une autre partie de la question qui était quel était le succès majeur. On va laisser les succès majeurs pour un autre café scientifique. Les laisser conclure sur ce qui constitue les défis les plus importants à leurs yeux. Donc je crois qu'on va peut-être commencer par M. Sandeau, si vous voulez bien.
Oui, merci. Peut-être l'élément le plus extraordinaire d'abord, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, passer de 49% à 70% de taux de tri, c'est phénoménal. Et alors le défi pour moi, hein, comme je le ressens, y compris comme collectivité publique, c'est la diminution de la production des déchets en amont. C'est de viser le zéro déchet, c'est évidemment une utopie totale, mais c'est de faire baisser en amont la production des déchets.
Merci beaucoup, Monsieur Maître.
Alors, je vais dans le sens de M. Sandeau. Je crois qu'un défi que l'on a, c'est de remonter le plus haut possible de la chaîne de gestion des déchets. Pour que nous, citoyens, on ne pâtisse pas de ça, mais aussi pour le bien de l'environnement. Et peut-être quelque chose qui est en liaison avec ça, c'est le débat autour des ressources. On parle beaucoup du climat, naturellement, ce qui est bien. Hein, donc c'est positif de parler du climat, parce qu'il y a certainement il y a un problème à résoudre à ce niveau-là, mais au niveau des ressources également. On a l'impression qu'on croule sous le cuivre, par exemple, et le cuivre est en quantité limitée. Il faut absolument gérer ses ressources de manière intelligente si on veut arriver à garder le niveau de vie qu'on a sur une planète à 9 milliards d'habitants. Donc ce débat-là, je pense qu'il faut absolument l'avoir. Et il faut que ce que l'on fait, les produits que l'on produit, hein, finalement, soient faits de telle manière à minimiser le gaspillage de ces ressources très précieuses.
Merci beaucoup. Le regard de l'écologie industrielle, M. Massard, peut-être ?
Oui, volontiers. On va tous se rejoindre, on va être tous d'accord. C'est très intéressant de parler des déchets, c'est très important, mais en écologie industrielle, justement, on s'occupe de l'ensemble du cycle de vie d'une ressource, donc on va aussi travailler sur son extraction, sa transformation, et il ne faut pas oublier ceci. Donc on a en fait des possibilités, il faut savoir quand même que les Suisses sont des très gros producteurs de déchets hein, par rapport à d'autres pays européens. Par contre, on a des très bons systèmes pour les gérer par rapport à des pays où on est encore de manière très importante dans la mise en décharge, et certains de nos voisins, hein, très proches. Donc on a des très bonnes filières, par contre on est des très bons producteurs. Alors est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? On peut aussi se poser la question, c'est est-ce qu'on est tellement bon dans le recyclage des déchets que finalement on en produit beaucoup. Donc l'idée ici, c'est que de responsabiliser finalement chaque producteur d'un côté, mais surtout chaque consommateur. Sur le producteur, il dit toujours « je laisse au consommateur le choix de son achat hein, », mais on a quand même des produits, quasiment des substituts pour énormément de produits aujourd'hui, je pense même aux vaisselles jetables et autres, enfin, on a des substituts recyclables, on a des substituts réutilisables, on a énormément de possibilités finalement de réduire fortement notre production de déchets, et je ne parle pas que des plastiques ou des plastiques de mauvaise qualité, mais aussi d'autres choses. Ça, c'est un élément. Et puis la deuxième chose, si on parle des métaux, c'est vrai qu'un élément que je trouve important, qui va être un enjeu à l'avenir, c'est la question de ce qu'on appelle les mines urbaines. On est entouré de ressources qui ont de la valeur. D'ailleurs, vous avez vu avec l'arrivée de la crise, les vols de cuivre et autres se sont fait légion en Europe. C'est-à-dire que les gens viennent et prendre dans des camions des bobines, ils vont même couper des câbles électriques et puis ils vont les revendre dans d'autres pays. Donc on est entouré de ressources qui ont de la valeur. Et ça, il faut bien en être conscient. On a construit tous nos réseaux, tous nos systèmes avec ça. Et il faut en prendre conscience. Et là, je pense qu'institutionnellement, il y a des enjeux aussi pour bien mettre ça en valeur et bien les valoriser pour que ça reste une richesse pour nous à l'avenir, pour la Suisse, pour chaque pays aussi, mais qu'on n'exporte pas trop finalement tous ces produits qui nous entourent, qui ont de la valeur, et qu'on les utilise pour finalement refaire, recréer nos réseaux, les remettre à jour, les remettre à neuf quand on en a besoin.
Merci beaucoup pour cette vision et cette référence aux institutions qui me permet de céder la parole tout naturellement à notre spécialiste de l'approche institutionnelle, Sylvie Lupton. Elle a ouvert les débats ce soir, elle les conclura.
Merci beaucoup. Donc, merci d'abord pour toutes vos questions vraiment intéressantes. Moi, je dirais que finalement, pour conclure, bien sûr, on est tous d'accord pour baisser les déchets, la quantité de déchets produits, mais les déchets et tout ce qu'on génère comme déchets, c'est un business. C'est un business pour deux raisons. D'abord, il y a toute l'industrie de l'emballage. Si on demandait à l'industrie de l'emballage de réduire significativement sa production d'emballage, ça va faire un tollé. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, tout ce qu'on gère au niveau des déchets, recyclage, incinération, mise en décharge pour la plupart des pays européens, ça génère de l'argent. Donc, réduire la quantité des déchets crée aussi des tensions parmi tous ces gestionnaires des déchets, puisque si vous réduisez les déchets, vous allez réduire aussi la profitabilité de ces filières. Donc ça ne va pas être facile d'aller vers une société du moindre déchet. En tout cas, du zéro déchet, comme vous le dites, ça me paraît difficile. Ensuite, au niveau du recyclage, c'est stratégique pour la Suisse. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de progrès. Elle est apparemment premier au niveau du recyclage papier-carton, à ce que j'ai lu. Mais le recyclage, ce n'est pas non plus la panacée. Pourquoi? D'abord, on ne recycle pas infiniment, à l'infini, la même matière. Le papier-carton, par exemple, il a une vie de 4 à 5 fois. Il ne peut pas être recyclé plus. De la même façon, chaque fois que vous recyclez, ça va affaiblir la qualité de ce que vous recyclez. C'est le cas aussi du papier. Le papier brouillon que vous avez, ça c'est un papier brouillon, il ne va pas avoir la même qualité d'absorption. Donc c'est pour ça qu'on a le papier brouillon d'ailleurs, qui absorbe beaucoup l'encre. Ce n'est pas la même qualité, ce n'est pas le même grain. Et vous avez aussi le problème de la sécurité. Si vous recyclez par exemple, comme ça a été le cas des farines animales, l'Angleterre n'était pas un bon exemple. Ils ont réintégré, l'Europe en général, ils ont réintégré les farines animales dans l'alimentation des bovins avec un prion qui a, qui a intoxiqué finalement toute la filière bovine ça a créé le problème de la contamination par la vache folle, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, et ça a remis en cause tout le système du recyclage des déchets organiques. Donc ça aussi, il faut prendre en compte l'aspect de la sécurité. Et enfin, Il y a un enjeu, c'est que oui, d'accord, c'est bien de recycler, c'est le moindre mal, peut-être. Mais où vont ces déchets qui vont être recyclés ? D'accord, la Suisse gère bien le papier carton. Elle a ce qu'il faut pour recycler ici. Mais quel est le sens de recycler si vous allez le recycler en Chine ? C'est quoi le sens environnemental ? Quand vous dépensez en transport, en carburant, vous imaginez pour le changement climatique. Environnementalement, quand vous recyclez par exemple des déchets électroniques en Chine, ils massacrent les boîtes comme ça, alors c'est pas cher du tout, mais ils s'empoisonnent en brûlant sans protection les déchets pour, par exemple, retrouver le cuivre, etc. Et donc, finalement, on est de nouveau en train d'exporter nos pollutions vers les pays du Sud. Donc, le recyclage, oui, mais nos chiffres, quand on dit on recycle, il faudrait avoir les vrais chiffres de ce qu'on recycle et où et comment. Ça serait vraiment une étude à faire pour montrer le vrai visage aussi du recyclage. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas pour toute votre attention.
Merci à tous, merci aux intervenants et merci à Igor de conclure officiellement le café.
Voilà, je voudrais juste, avant que vous quittiez la salle, je voudrais juste vous inviter à prendre note du prochain café scientifique qui aura lieu dans un mois, le mercredi 13 février. On changera totalement d'ambiance puisqu'on parlera du loup et de son retour probable dans nos contrées. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée et donc rendez-vous dans un mois. Même salle, même heure. Merci.